nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, bientôt les enseignants disposeront de maisons régionales pour la science un peu partout en France, un véritable projet d'envergure dans la continuité de la main à la pâte qui vise à donner les outils nécessaires aux enseignants dans le cadre de leur développement professionnel pour nouer ou renouer des liens avec la science vivante. Car comme vous le savez peut-être, l'enseignement de la science est obligatoire 2 heures par semaine en primaire, mais les professeurs des écoles au profil littéraire, le plus souvent, n'osent pas forcément s'aventurer en terre inconnue. Pourtant, transmettre le goût de la science, disposer d'un raisonnement scientifique, c'est donner aux générations futures une pensée rationnelle pour participer aux débats scientifiques et technologiques à venir. Pour nous parler de ces maisons régionales pour la science, de ses objectifs et des enjeux de ce chantier, 3 invités sont avec nous en studio. Béatrice Salvia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, chargée de mission à l'Académie des sciences, auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Vous réalisez une partie du contenu pédagogique de La Main à la Pâte. David Jasmin, vous êtes directeur de La Main à la Pâte, physicien. Et puis également auteur comme votre collègue d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Et enfin Pierre Léna, fondateur de La Main à la Pâte, membre de l'Académie des sciences et à l'initiative de ces maisons régionales pour la science. La Main à la Pâte a débuté en 96, quelques mots pour nos auditeurs, donc a débuté en 96 à l'initiative de 3 académiciens, Georges Charpak, aujourd'hui disparu, Yves Quéré et vous-même, Pierre Léna. La Main à la Pâte promotionne l'apprentissage des sciences par l'expérimentation à l'école primaire et au collège. Béatrice Salvia, vous nous en direz quelques mots. Aujourd'hui, les maisons régionales pour la science sont la continuité de La Main à la Pâte. Cela signifie donc que c'est un grand succès pour toute l'équipe qui travaille depuis 15 ans. Et pour preuve, quelques chiffres. Seulement 5% des professeurs des écoles faisaient de la science à l'école primaire avant les débuts de La Main à la Pâte. En 2010, ils étaient 40%. Alors, que reste-t-il à faire pour les maisons régionales pour la science? Et cette question s'adresse à tous les 3. Pierre Léna, pour commencer.
Ce que nous avons constaté depuis 15 ans, c'est une distance trop grande des enseignants, que ce soit les professeurs des écoles qui enseignent les sciences parmi d'autres disciplines, ou des professeurs de collège plus spécialisés, avec ce que nous avons appelé la science vivante, avec le monde des scientifiques, des chercheurs. Et ces professeurs, qui sont excellents, sont pour les premiers souvent mal à l'aise avec la transmission, non pas tant de connaissances de sciences qui sont importantes, mais de la démarche même de la science, cette façon d'approcher le monde qui permet d'affirmer sur lui des choses avec un certain degré de solidité. Donc nous avons voulu faire cette proposition aux investissements d'avenir, autrement dit le grand emprunt, pour que ce qu'on appelait la formation continue des professeurs et que nous préférons appeler développement professionnel, comme vous l'avez dit, se fasse dans des conditions un peu différentes en faisant réellement un partenariat entre professeurs enseignant les sciences et le monde scientifique, organismes de recherche, universités, de manière à ce que pour ces professeurs, la science retrouve une saveur qu'elle avait probablement pour eux dans leur jeunesse, mais qu'elle a souvent perdue dans un enseignement qui est parfois devenu un peu répétitif et trop loin justement de cette science vivante. Voilà notre propos.
David Jasmin, vous travaillez plus avec le primaire, Béatrice Salvia plus avec le collège. Que pourriez-vous ajouter à ce que dit Pierre Léna, vu que vous travaillez directement avec les professeurs des écoles, pour ce qui est de votre part, David Jasmin?
Dans le cas du primaire, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs européens, les professeurs des écoles ne sont pas de formation scientifique. 80% d'entre eux ont une formation littéraire ou en sciences humaines et c'est une situation qu'on retrouve dans d'autres pays. La réflexion qui est menée aujourd'hui au niveau national mais également international montre qu'un des leviers principaux pour engager les enseignants dans une pratique des sciences expérimentales basée sur une démarche d'investigation, c'est le développement professionnel. D'où l'objectif principal de ce projet de maison des sciences, c'est de proposer une offre de qualité pour ces enseignants, entre autres, également les enseignants du collège, et les mettre en contact avec la communauté scientifique, avec la science vivante. Voilà un peu la perspective qu'on s'est donnée dans le cadre de ces maisons, ce qui est complètement nouveau, puisqu'actuellement, si on regarde les chiffres donnés par le ministère de l'Éducation nationale, seuls quelques pourcents des formations dispensées au niveau du primaire sont animée par des scientifiques.
Alors, on imagine que c'est la même chose pour les enseignants, les professeurs au collège, mais j'imagine que le schéma est un peu différent. Je me tourne vers vous, Béatrice Alvia, car ce sont des professeurs de sciences, pour le coup, au collège, qui ont une formation scientifique.
En effet, au collège, la situation est assez différente, puisque les professeurs qui enseignent les sciences et la technologie sont des spécialistes de leur discipline. Et l'enjeu que nous avons visé pendant ces 4 ou 5 années déjà de mise en place de l'enseignement intégré de sciences et technologies était de faire comprendre combien était importante l'interdisciplinarité pour pouvoir faire de la science. Être capable d'aller aux marges de sa discipline pour expliquer comment des projets peuvent aboutir, non pas en restant cloisonnés dans des disciplines, mais en mettant en synergie ces différentes disciplines. Et cela existe dans la communauté scientifique, et nous voulions, dans l'objectif d'être très proche de cette communauté scientifique, faire vivre aux enseignants cet enjeu majeur qui porte ses fruits aussi dans l'enseignement, puisque nous assistons à des situations où tout le monde prend vraiment du plaisir, aussi bien les enseignants à avancer, à se questionner mutuellement, que les enfants à apprendre et à progresser.
Alors je crois savoir, pour rester dans le domaine du collège, que cette interdisciplinarité existe déjà un peu. Il y a eu des essais de fait dans des collèges où des professeurs de sciences, d'SVT, de mathématiques, de physique chimie travaillaient ensemble. Et j'imagine que ça va se développer.
Eh bien, cette année, le nombre de collèges impliqués a doublé et certainement le mouvement prend de l'ampleur puisque la satisfaction à la fois des élèves et des professeurs est très grande à travailler de la sorte.
Alors, on va poursuivre cette émission. Pierre-Léna, vous avez parlé effectivement non pas de formation continue, mais de développement professionnel. Quelle est la différence entre les deux ?
Elle est, à mes yeux, significative et je crois aussi aux yeux des professeurs. Formation sous-entend presque automatiquement dans notre langue et dans notre pays une pratique relativement passive où il y a les formateurs qui savent et les formés qui apprennent. Or, je crois que ce n'est pas le propos pour des professeurs qui ont une longue expérience ou moins longue pédagogique, de pratique scientifique également pour certains d'entre eux en tout cas, et qui sont confrontés à la classe. Et l'idée du mot développement professionnel est que ils s'approprient des étapes de leur propre carrière, de leur propre histoire, de leur propre vie finalement, de leur propre aventure intellectuelle et personnelle. Et que ce moment d'appropriation, ben, développement dit bien ce que ça veut dire, professionnel aussi, il est d'abord vécu de par leur volonté. Ils y adhèrent, ils se l'approprient, et la science que nous allons partager avec eux devient un peu la leur. Ils ne sont pas en position d'élève. Vous voyez, ils ont été en position d'élèves au lycée, ils ont été au lycée ensuite à l'université, ils étaient encore sur des bancs, ils ont préparé des concours, et puis dans la classe, ils passent de l'autre côté des bancs d'élèves. Ils sont toujours dans la classe, d'une certaine manière. On va les en sortir, et je crois que des expériences que nous avons, ils vont bien aimer. Alors, le terme dans le monde anglo-saxon est « professional development », donc nous avons repris ce terme qui est parfaitement compris dans tous les pays du monde, en pensant qu'on mettait ainsi aussi la France dans un mouvement international où il y a beaucoup d'échanges sur ce sujet, puisque comme David Jasmin le rappelait à l'instant, tous les rapports d'études internationales dont nous disposons montrent que ce développement continué pendant les 35 ou 40 ans de la carrière, c'est la clé de la qualité des professeurs, donc de l'enseignement.
Alors justement, ça m'amène sur cette question qu'est la formation continue, qui je semble est assez délicate du point de vue de l'enseignement. Est-ce que justement ce développement professionnel pour ces professeurs, ces enseignants, va remplacer petit à petit cette formation continue qui a du mal à vivre ? Je me tourne vers tous les trois, je ne sais pas qui veut prendre la parole, Karina.
Il n'y a pas vraiment lieu de la remplacer puisqu'elle est en train de disparaître totalement. Donc, on n'en prendra pas la place. Et bien entendu, ce n'est pas non plus le rôle de l'Académie des sciences de se substituer aux obligations de l'État quant à la formation des personnels qu'il emploie. Ce que nous voulons montrer, c'est comme nous l'avons fait avec la main à la pâte, que même dans des situations de crise, on rappelait les 5% de 1996 tout à l'heure, on peut imaginer des modèles nouveaux qui vont permettre, parce que ces modèles sont pertinents et de qualité, de sortir de la crise. Nous avons une crise de la formation continue en France. Nous allons proposer par ces maisons un modèle nouveau et nous espérons que ça servira à l'État ou aux universités ou aux partenaires variés que nous avons sollicités, aux entreprises notamment, de réinventer des modalités de développement professionnel modernes pour notre pays.
Alors Béatrice Salvia, je me tourne vers vous. Les maisons régionales pour la science vont-elles être destinées seulement aux enseignants ?
Oui, les enseignants sont le cœur de cible de ces maisons. Ce sont à eux que seront destinées les ressources qui seront présentes là, les enseignements, les travaux avec les scientifiques, puisque nous tenons vraiment à ce que la part de la pédagogie et la part de la science soient égales. 100% de science, 100% de pédagogie.
Ou 2x50 plutôt.
Non, je plaisante, bien sûr.
Alors, quel contenu va-t-on trouver, David Jasmin, justement ? Donc, des formateurs, j'imagine, mais pas seulement. J'imagine également du contenu pédagogique.
Oui, alors le contenu sera résolument orienté vers des thématiques scientifiques, des contenus scientifiques, tout en prenant en compte une mise en pratique dans les classes. Donc, quelque chose d'extrêmement appliqué aussi au contexte de la classe. L'idée, c'est vraiment d'outiller l'enseignant en le mettant en relation justement avec une science vivante pour qu'il puisse mettre en œuvre dans de bonnes conditions des activités scientifiques et technologiques dans sa classe. À cela, on réfléchit aussi à mettre en avant non pas simplement une approche disciplinaire, mais essayer de faire du lien aussi avec des disciplines connexes, notamment les mathématiques, mais également, et particulièrement pour le primaire, le langage. Et puis aussi des disciplines comme l'histoire ou même les nouvelles technologies qui peuvent très bien s'intégrer à une pratique des sciences. Par ailleurs, on pense aussi, et ça c'est pour faire écho à votre question sur le développement professionnel, à proposer différentes modalités d'action. Bien sûr, une formation en présentiel, classique, mais également un suivi dans les classes, un accompagnement scientifique par un étudiant en sciences ou un chercheur, de la formation à distance, des conférences, toutes sortes d'actions qui pourront contribuer à la maîtrise des pratiques scientifiques et technologiques en classe.
Donc beaucoup d'offres à venir,
voilà,
une offre diversifiée.
Voilà. Diversifiée et en même temps cohérente. L'idée, c'est de laisser la possibilité à un enseignant de progresser pour qu'il s'approprie sa formation, bien sûr, participer s'il le souhaite à une seule action, mais pouvoir l'appréhender dans une perspective, dans la durée. Le fait d'ancrer les maisons dans les universités va nous ouvrir la possibilité aussi de proposer des diplômes d'université, voire des modules de master à des enseignants qui le souhaitent.
Donc justement, on en vient à cette question-là. Ces maisons, j'imagine qu'il va y en avoir quelques-unes qui vont naître. Elles seront à chaque fois installées dans les universités, Pierre Léna ?
Oui, c'est un choix que nous avons fait dès le début. L'université, c'est là où les professeurs sont formés, avec la masterisation aujourd'hui. Ça devrait être leur maison, au sens home, le lieu où ils y restent bien toute la vie, avec des rapports à ce lieu d'élaboration de savoir qu'est l'université. Or, ceci n'est absolument plus le cas aujourd'hui en France. Sauf peut-être dans certaines disciplines littéraires ou historiques, où les liens construits, parce que les cursus formations sont un peu différents, où les liens construits avec des universitaires, des bibliothèques, des centres de ressources sont différents. Mais en sciences, ce n'est absolument plus le cas. Et c'est ça que nous voulons reconstruire. C'est pour ça que nous avons choisi ce mot de maison, un lieu où l'on soit chez soi pour partager de la science.
Alors ces maisons, elles vont voir le jour où, Béatrice Salvia ?
La question est encore très ouverte, puisque plusieurs universités ont répondu à l'appel d'offres de l'Académie des sciences. Et Pierre Léna certainement vous dira davantage sur les conditions précises. Pour l'instant, donc,
tout reste
la question reste ouverte.
En suspens.
Non, c'est une question évidemment sur laquelle beaucoup de nos interlocuteurs nous interrogent. Nous avons eu une somme substantielle des investissements d'avenir, 8 millions d'euros, complétés par les apports extérieurs. Donc nous pensions, avec notre demande initiale, pouvoir faire 4 maisons. Avec ce qui nous est alloué, et comme nous voulons le faire bien, pas solder le résultat, nous n'en ferons au départ que 2. Nous espérons que ces 2-là, dont nous allons choisir les universités réceptacles, si je puis dire, partenaires, d'ici la fin de cette année 2011, serviront de prototypes et de modèles suffisamment forts pour que d'ici pas trop de temps, mettons peut-être 2 années, on puisse lancer une seconde vague.
Je crois savoir qu'il va y avoir un centre qui va coordonner toutes ces
le
maisons.
Le centre existe déjà parce que la délégation à l'éducation et à la formation de l'Académie des sciences a porté depuis maintenant qu'elle existe 5 années et avant l'Académie elle-même la main à la pâte. Donc la fondation que nous mettons en place va héberger l'ensemble de ces activités sous un nom de centre national qui aura aussi à mettre en œuvre les maisons. Donc nous sommes en pleine continuité avec toutes les actions de la main à la pâte. Et l'Académie des sciences, je crois que je peux le dire ici, tient énormément à cette continuité.
Y compris les actions de la main à la pâte en Europe et en dehors de l'Union européenne. Béatrice Salvia, vous me faites oui de la tête, alors je vous laisse répondre.
Je pense que la dimension internationale est vraiment aussi à prendre en compte puisque les travaux, les ressources, les modules, les activités pédagogiques et scientifiques qui seront proposées dans les maisons reposent sur des échanges qui aboutissent à des acquis. Et Pierre Léna, récemment, a publié un livre qui s'appelle « 10 notions clés » aux éditions Le Pommier, qui va ouvrir la voie à cette réflexion internationale sur laquelle nous pourrons nous appuyer. Enfin, Pierre pourrait dire davantage, certainement, sur cette question.
Non, mais nous avons tellement imbriqué depuis 10 ans l'action nationale, la main à la pâte, avec les partenariats internationaux multiples en Europe et hors d'Europe. Il serait déraisonnable, parce que nous amplifions l'effort en France, de couper les liens avec les développements internationaux. D'ailleurs, notre conception des maisons s'est beaucoup inspirée des liens que nous avons avec les Britanniques et avec le réseau britannique de Maisons pour la Science. Donc, bien sûr, le Centre national héberge demain et développera après-demain l'ensemble du réseau international de la main à la pâte.
Et dernière question, je me tourne vers vous, David Jasmin. Ce Centre national sera une émanation de l'Éducation nationale, de l'Académie des sciences, des deux? Quelle sera sa structure? Alors,
le Centre national sera une extension des actions actuellement conduites par l'Académie des sciences et ses partenaires autour de l'enseignement primaire et du collège. Il sera basé à Paris, avec une équipe renforcée, disons, par rapport à celle qui existe aujourd'hui, et qui aura en particulier à charge d'assurer une cohérence et une qualité dans les actions des maisons, de former aussi les intervenants de ces maisons, et bien sûr de produire des ressources, aussi bien pour les écoles que pour la formation, qui pourra être utilisé justement dans le cadre des maisons.
Un lien avec l'Éducation nationale ou pas?
Oui,
du tout?
Oui, bien entendu, le regard de l'Éducation nationale, dont nous nous proposons d'aider les personnels à mieux exercer leur mission, est évident. Mais la force de la main à la pâte a été l'indépendance de l'Académie pour sa mise en œuvre. Et nous l'avons fait en concertation structurée avec l'Éducation nationale. Ce sera le cas pour le projet des maisons. Ce n'est pas un projet commun de l'Académie des sciences et de l'Éducation nationale. C'est un projet commun de l'Académie des sciences et de 2 partenaires principaux qu'il faut citer, l'École normale supérieure de Lyon et l'École normale supérieure à Paris. Le ministère de l'Éducation pourra, par une modalité conventionnelle déjà en place, faire savoir ses souhaits, ses vœux, ses critiques, le cas échéant, à l'Académie des sciences, laquelle pilote le centre et les maisons.
Alors, prochaine échéance pour début janvier, pour connaître justement les 2 lauréats.
Voilà, peut-être un peu avant, mais certainement entre décembre et janvier. Et nous espérons faire connaître non seulement les 2 lauréats, comme vous dites, avec lesquels nous allons commencer, mais aussi les perspectives pour les suivants.
Eh bien, merci à tous les 3 d'être venus nous rendre visite. Et puis, disons-le, longue vie aux maisons régionales pour la science. Merci à tous les 3 d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci.